بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cheikh en islam, je reviens à Allah Rabbul Izzah qui nous a accepté pour passer un mois de Ramadan dans son obéissance. Et après un mois de jeûne, de saum, de prière de la nuit, de tahajjud, de salat ou de tarawih, après un mois de lecture intensive de Coran, après un mois de dhikrullah, de dua, de istighfar, nous devons être persuadés que nous sommes ressortis de ce Ramadan avec énormément de bienfaits, énormément de hasanat certainement, et avec une nuit du destin inshallah qu'on a pu obtenir, ben nous ressortons avec une richesse qui est inestimable. Et à la sortie du mois béni, alors que nous croyons que Allah nous a accordé tout ce qu'il accorde à n'importe quel être humain, à n'importe quelle communauté, Allah nous gratifie dans notre bienfait qui est la possibilité d'obtenir encore plus de récompenses. Une récompense qui nous étonne autant que la récompense de la nuit du destin. Lorsqu'on prend conscience de la rétribution divine de 83 années d'adoration pour une nuit du destin et qu'on reste étonné, on est parfois même, astaghfirullah, un peu dans le doute. Hein. Si on n'a pas une foi qui est solide, on peut se dire, mais est-ce que ces textes-là en fait n'extrapole pas un petit peu la réalité? Abadan billah, quand Allah décide de rétribuer, ben, n'oublions jamais qu'on a affaire à celui qui est Al-Karim, celui qui est généreux, et celui qui est Al-Rani, celui qui est riche, c'est-à-dire celui dont le trésor n'a pas de limite. Ben, à peine nous revenons de cet étonnement, de la générosité divine, de la nuit du destin et du mois de Ramadan, d'une façon générale, Allah nous gratifie par une action par laquelle nous pouvons obtenir quoi, Hudaïfa? Une année passée en état de jeûne. Nous avons jeûné 29 jours cette année. Donc par rapport à un calendrier islamique, il nous en manque combien? Il nous en manque, à le calcul mental, 360 moins 30, 330. Donc il nous en manque 331. Ben, Allah Rabbul Izza, dans sa générosité, sa clémence, a décrété. Parce que c'est Allah qui décrète. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer, que c'est notre Seigneur qui fixe, le thème n'est pas adapté, mais on pourrait le dire, les règles du jeu. C'est Allah qui est responsable du taqdir de l'humanité, de chacun d'entre nous, de la révélation, mais également du jaza ou l'iqab, des rétributions et des conséquences des péchés et des mauvaises actions. Ainsi, et toutes les décisions d'Allah émanent de sa sagesse, de sa clémence, de sa bonté, de sa générosité. Allah ne prend jamais une décision basée sur sa colère. Car dans le Coran, Allah Rabbul Izza nous a révélé wa rahmati wasi'at kulla shay, et que ma clémence a englobé toute chose. Dans les hadiths qudsi, il est stipulé que la clémence d'Allah a dépassé sa colère. Et que tout ce qu'Allah nous prédestine, Allah ne nous prédestine pas par colère ou par, na'oud billah, vengeance ou pour nous faire du mal. Bien au contraire, ainsi, tout ce qu'Allah révèle, là on a parlé du destin, maintenant on parle de ce qu'Allah légifère. Tout ce qu'Allah révèle, mais cela émane de sa générosité, de sa clémence et du fait qu'Allah veuille du bien pour nous. Allah veut du bien pour nous. Je vous donne un exemple qui est totalement décalé, mais vraiment totalement, mais parfois ça nous permet d'avoir un petit aperçu et comprendra, Inch'Allah, pas qui pourra, mais presque tout le monde, Inch'Allah. Cet après-midi, dans la madrasa, j'ai rappelé à l'ordre un élève à 3 reprises. Mauvais comportement, bavardage, discussion et manque de respect donc à son professeur. Et la 3e fois, je l'ai entendu dire un gros mot, mais un vilain, celui qui commence par P, très fort. Et j'ai compris, j'ai identifié la voix. À un moment donné, on finit par identifier plein de choses, sans avoir de pouvoir, hein, c'est naturel, je vous assure. Et je terminais un travail, 5 minutes après, je suis parti voir ce groupe et j'ai dit à l'élève, à ce groupe, qui c'est qui a dit tel mot. Bref, on a essayé de mener l'enquête et bien sûr, vous savez comment ça se passe, il y a un qui couvre l'autre, solidaire comme pas deux. D'accord ? Donc, je dis, écoutez, on a 10 secondes, celui qui a dit le gros mot, il se dénonce et il n'y aura aucune conséquence. Autrement, je punis le groupe. Ils sont restés solidaires jusqu'au bout. Compliqué, hein ? Compliqué. Et donc, à la fin, moi, j'étais persuadé. J'ai dit, c'est toi. Et il a commencé à dire, non, jamais, c'est pas moi, n'importe quoi. Il a s'énervé. On est de le chaudron quand même. Je parle de notre quartier, c'est chaud bouillant. Et puis, il faut toujours chercher le maillon faible dans un groupe. Il y en a qui veulent rentrer chez eux. Donc, j'ai dit, écoute, toi, je ne te demande pas de balancer, mais avoue que c'est lui. Et le groupe sera pardonné. Il dit, oui, c'est lui. Donc, ça, là, on a créé la brèche, c'est fini. Et donc après il a reconnu et très offensé qu'on l'ait accusé, il ne reconnaît pas et tout. Puis je dis, regarde-moi dans les yeux. Il ne regarde pas un professeur, il dit, regarde. Il dit, est-ce que tu penses que je te veux du mal? Est-ce que tu penses une seconde que moi, ton professeur, je décrète quelque chose parce que je ne t'aime pas ou je veux me venger de toi? Jamais de la vie. Ce que je souhaite pour toi, c'est le bien. Et donc quand je prends des mesures de punition ou de restriction, de contrainte ou autre chose, c'est pour ton bien. Et puis là, l'élève commence à comprendre que ce n'est pas une relation entre quelqu'un qui domine et qui laisse sa colère, qui déverse sa colère sur quelqu'un. C'est une petite idée pour qu'on comprenne que quand notre Seigneur légifère quelque chose, quand notre Seigneur nous prédestine quelque chose, prédestine c'est notre tardir à nous, hein, ce qui nous arrive dans la vie. Et de même quand notre Seigneur nous interdit quelque chose, quand Allah interdit l'alcool, quand Allah interdit tel péché, quand Allah, donc, on retient par rapport au Shawwal, quand Allah légifère une action, c'est toujours pour le bien du mu'min. Et c'est par l'intermédiaire de cette action qu'on obtient un niveau, un degré, que normalement, qui n'est pas à notre portée. Qui est capable de jeûner toute l'année? Personne. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Mais dans sa générosité, Allah a légiféré et décrété que celui qui a complété le mois de Ramadan, que le mois comporte 29 ou 30 jours, tu as complété. ثم أتبعه ستاً من شوال. Ensuite, la personne a enchaîné avec 6 jeûnes du mois de Shawwal. Après, il y a différentes approches des fuqaha. Ça, c'est des maslak connus. Certains disent qu'il faut faire tout de suite après. D'autres disent qu'on peut les répartir. L'avis majoritaire, celle qui revient, c'est que les 6 Shawwal, on peut les faire durant le mois de Shawwal. On peut les dispatcher 2, 3, 1 par semaine, 2 par semaine. Le plus important, c'est d'avoir jeûné 6 jours durant le mois de Shawwal. Et Allah décrète que c'est Siyam al-Dahr, qu'Allah accorde la récompense d'une année de jeûne. D'une année de jeûne. Et on ne doit pas s'étonner de ce niveau de récompense, de rétribution, parce que celui qui légifère, c'est Al-Karim, et également Al-Shakur. Et ça nous permet d'introduire ce nom d'Allah qu'on, là, on commence à étudier ce soir, Al-Shukru. Quand on dit Al-Shukru Salih, ça te dit quelque chose, le mot Shukru? Merci. Gracias, Señora. Merci. Quand on dit Fishukar, ça veut dire sois reconnaissant. Bien, ça c'est l'ouraoui. En arabe, il y a toujours le ma'ana l'ouraoui et puis il y a le ma'ana istilahi. Istilah, c'est shari'i. La compréhension par rapport à la langue qui permet aux hommes de comprendre ce qu'Allah révèle. Et puis, il y a le muradullah, ce qu'Allah veut nous enseigner à travers un terme que nous connaissons. Quand je parle de la reconnaissance de notre ami, de notre frère, et la reconnaissance d'Allah, ça n'a aucun rapport. Être reconnaissant, c'est être redevable à quelqu'un de quelque chose et donc agir aussi bien, voire mieux que la personne. Ça, c'est la compréhension humaine. Maintenant, bien sûr, dans la relation avec le divin, ça ne prend pas du tout, ça va beaucoup plus loin et ça ne se limite pas à une relation entre celui qui fait et Allah accepte et lui accorde des choses. Non. Alors, justement, pour comprendre le mot ash-shukr, et justement, il y avait une personne dans le programme de tafsir de vendredi, quand on expliquait un petit peu comment arriver à la purification intérieure par la connaissance religieuse, on avait parlé de l'étude des noms d'Allah. Et la personne avait posé la question, bon, en plein programme, ce qui est parfois un petit peu maladroit, mais c'est pas grave, on prend. Elle dit, ça veut dire quoi? Connaître la traduction? Non. en fait connaître, tout simplement, entre guillemets, hein, la traduction des noms d'Allah, c'est déjà une bonne chose, hein, c'est mieux que rien. Il faut toujours aller dans le positif, c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas le fait de connaître la traduction des 99 noms d'Allah qui nous permettront de connaître réellement Allah. Non, il faut aller, il faut faire un travail en profondeur, un travail de ilm, et ce que nous essayons de faire ensemble, essayer de comprendre, de décrypter, ce n'est pas de comprendre, de décrypter la profondeur et la puissance de chaque nom et chaque attribut d'Allah. Parce que plus le mu'min va connaître son Seigneur, plus il va l'adorer. Et en relisant ces notes entre Maghreb et Isha, en revoyant un peu ces différents points, à chaque fois qu'on revoit, on relit, on retrouve d'autres choses, d'autres richesses exceptionnelles à travers les versets et à travers les hadiths, on se rend compte que l'étude de... Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas dit encore, même si souvent on répète la même chose, mais c'est pour qu'on réalise bien. On se rend compte que l'étude des noms d'Allah, on a déjà vu que ça nous permet de mieux connaître Allah, ça nous permet de faire notre propre tazkiya, purification intérieure, mais on se rend compte que l'étude des noms d'Allah nous permet d'arriver à un degré de taqwa, de piété. Et l'étude des noms d'Allah nous permet de trouver, ça on a déjà dit, dévotion, concentration et d'une façon générale, développer les a'mal al-qulub, toutes les actions intérieures. Thème qu'on avait abordé il y a quelques, je crois qu'il y a un Jum'a, toutes les qualités intérieures qui doivent normalement être à la base de nos bonnes actions et qui donnent aux bonnes actions l'ampleur, la profondeur spirituelle et qui nous permettent d'atteindre le halawatul iman, la douceur de la foi. Et parmi cela, il y a la concentration, la dévotion, la sincérité, la recherche du contentement divin, l'espoir de rétribution. Et uniquement en étudiant Ash-Shakur, ça nous donne déjà des pistes pour développer ces qualités. Comme d'habitude, on commence par l'introduction de l'auteur. Yaqulu rahimahullah, hafidhahullah, plutôt il est toujours vivant. Wa in sa'alta an shukrihi. Et si jamais tu te demandes comment est cette qualité de ash-shukr de notre Seigneur, fahuwa sifatur rabbi wa fi'luhu. Sache que c'est une qualité qui est intrinsèque à notre Seigneur. Et c'est la façon dont il agit avec ses serviteurs. فَإِنَّهُ سَمَّى نَفْسَهُ بِالشَّكُورِ. Allah s'est attribué le nom de الشَّكُورِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Et d'autres versets, إِنَّ رَبَّنَا الْغَفُورٌ شَكُورٌ. Alors, ces versets sont la base de l'étude de ce nom d'Allah. يقول حفظه الله ومن شكره أنه يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح الأعمال. Parmi cette manifestation de ça, alors comment le traduire déjà, de cette reconnaissance divine? Mais on va voir que Ash-Shakur, ce n'est pas uniquement le reconnaissant, c'est celui qui accepte le peu d'action du serviteur. Un, autant le dire tout de suite, qui en rétribue abondamment, passe sur les péchés même nombreux du serviteur et qui est prêt à les pardonner entièrement. Et on pourrait inclure dans la compréhension de ce nom d'Allah, c'est celui qui sait reconnaître, c'est celui qui reconnaît. C'est celui qui reconnaît la sincérité, la dévotion, l'engagement et le sacrifice de chacun dans l'accomplissement d'une bonne action et qui va en rétribuer, qui va donc rétribuer les serviteurs par rapport à ses qualités intérieures. Voilà en gros. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on va mieux comprendre. Donc, dans cette première présentation, il dit que le Shakur, Ash-Shakur, c'est celui qui pardonne abondamment quantité de péchés et qui accepte le peu de bonnes actions que le serviteur peut accomplir. Et pour cette quantité infime de bonnes actions, Allah est capable de rétribuer abondamment. Voyez l'opposition. On vient devant notre Seigneur avec une montagne de péchés et Allah peut tout pardonner. On vient devant notre Seigneur avec choué yabas, avec une petite quantité de bonnes actions. Allah peut accorder des montagnes, des quantités de hasanat, de récompenses qu'on ne peut même pas, imaginer. Ayat de la sourate Al-Baqarah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت combien de سنابل؟ سبع سنابل Et dans chaque sumbula, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Mi'a, c'est combien, Oustaz? Pour venir au cours. Allez, mi'a, 100. Mi'atu habba. Et ce qui est intéressant, tout est intéressant, bien sûr, mais ce qui nous conforte et réconforte, c'est Wallahu yudha'ifu, Abdurrahman, liman yasha. Et c'est ce liman yasha qui nous interpelle en plus de l'annonce de rétribution. Et le fait qu'Allah est Wallahu wasi'un alim. Traduction. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah. Ça s'appelle comment? Sadaqa, investissement, awqaf, tout ce qu'on veut. Ressemble à un grain. Habba, un grain d'où naissent 7 épis. À partir d'un grain, il y aura 7 épis. Et à 100 grains l'épi. Chaque épi va donner encore 100 grains. C'est une métaphore. C'est par cette image qu'Allah nous fait comprendre qu'une bonne action peut être décuplée à une quantité qu'on ne peut pas imaginer, tout comme une graine peut donner quantité de culture. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. En commentaire, les Mufassirin, rahimahumullah, rappelle que voilà un exemple par excellence de cette générosité divine dans la rétribution et le fait qu'Allah accepte peu et nous en rétribue énormément. Le habba, une petite graine qu'on a peut-être donnée en aumône et de cette petite graine, ça peut être 1 euro que j'ai mis pour la mosquée ou une somme infime et à partir de là, Allah va nous accorder une multitude, une quantité de récompenses. Ça, je pense que c'est un verset connu et tout le monde avait déjà compris le sens de ce verset. Là où je vais attirer votre attention, c'est Wallahu yudha'ifu liman yasha'a, car Allah multiplie la récompense à qui il veut. Liman yasha'u. Ça veut dire qu'en fonction des individus qui vont accomplir la même action, la rétribution sera différente. Différente par rapport à quoi? Par rapport à la personnalité de chaque individu, de chaque croyant, par rapport à la situation. Et Allah est le seul qui peut déterminer notre niveau de ikhlas, de sincérité, mais également le niveau de mujahada, le sacrifice qu'on a fait pour accomplir cette bonne action. Et on a un verset où notre Seigneur nous rappelle « Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ». C'est l'histoire de ce couple de sahaba qui avait accueilli un invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. L'histoire est connue, oui ou non? On le rappelle par principe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait dire à cette personne, cet homme, un étranger de passage, donc déjà on retient que ce n'est pas que les gens riches ou les gens importants, quelqu'un que personne ne connaissait, quelqu'un de passage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, veuillez l'accueillir chez vous s'il vous plaît, lui accorder l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un des mots perdu à notre époque. On l'envoie à l'hôpital s'il le faut, mais pas l'hospitalité, pas connu. Accorder l'hospitalité. Ils l'ont accueilli, sauf qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas suffisamment à manger pour leur famille avec leurs enfants. Et l'histoire est connue, le papa dit à la maman, fais dormir les enfants, ainsi de suite. Et au moment où notre invité passera à table, on va faire comme si qu'on répand la lampe. La lampe, d'accord? Et du coup, il va manger dans l'obscurité et il ne verra pas que nous ne sommes pas en train de manger. En fait, on fait semblant de mâcher, de mastiquer pour que l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse lui manger à ventre plein. C'est-à-dire qu'il va manger la nourriture qui était destinée à un papa, à une maman et à ses enfants. Il y avait tellement peu. Faqr, faqr. Les sahaba ont vécu de la pauvreté. De nos jours, nous voulons avoir tout et nous sommes persuadés qu'avec la richesse, c'est là que nous allons être heureux. Les sahaba, il y avait ce couple-là, il n'y avait pas plus heureux qu'eux avec peu de nourriture. Le prophète lui-même disait que des fois, des mois passés, il n'y avait pas de fumée qui sortait de la maison. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à cuire. La seule chose qu'il mangeait, c'était des dattes et il buvait de l'eau. Rien, rien, rien à manger. Subhanallah. Et ça, c'est le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a accepté Nabiullah et accepté les sahaba pour leur foi, pour leurs bonnes actions, l'éloignement des péchés, mais certainement également pour leur acceptation du destin du taqdir. Ils ont accepté le taqdir. Jamais un sahaba n'a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: ô prophète d'Allah, lève tes mains et demande à notre Seigneur de nous accorder les richesses de cette terre pour que nous vivions enfin de le confort et que nous puissions manger 3 repas le ventre plein. Parcourez tous les hadiths. Jamais vous ne trouverez un texte qui dit les sahaba ont demandé la richesse. Abadan. Ce qu'Allah leur avait donné, ils en étaient satisfaits. Et au contraire, plus Allah leur donnait, plus ils donnaient dans le chemin d'Allah. On est en train de voir la bataille de Tabouk avec les élèves, les collégiens. Et c'est une belle leçon sans sortir du sujet, mais c'est une belle leçon de valeur dans un monde, un monde capitaliste, mais on ne va pas parler de tout ça, mais dans un monde où on est profond, où on a un comportement profondément individualiste et la cupidité a envahi les cœurs. Un tel point où, dans une même famille parfois, on est prêt à mettre de côté son frère, sa sœur, son oncle, son neveu, dans un partage de biens, d'héritage, pour en avoir plus pour soi-même. Voilà un peu les valeurs que la société nous inculque, silencieusement, volontairement ou involontairement. Ce sont les valeurs avec lesquelles nos jeunes grandissent. Et en étudiant une histoire comme la bataille de Tabouk, plutôt que de se focaliser sur la guerre contre les Romains, voyons plutôt les manifestations de Iman des Sahaba, où Abu Bakr amène tout ce qu'il avait, tout. Et il a dit au prophète d'Allah, j'ai laissé Allah et son prophète. C'est-à-dire une confiance en Allah qui est exceptionnelle. Omar ibn al-Khattab avait amené la moitié, Uthman ibn Affan le tiers. Ça, ce sont des leçons de vie. Ce sont des biographies. Ce sont des personnes, nos héros, qui doivent nous inspirer et nous devons les prendre donc comme exemple. Ces sahaba n'ont jamais demandé les richesses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient satisfaits de ce qu'Allah leur donnait. Et donc, ce couple avait reçu cet invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui avait donné à manger. Et Allah, Rabbul Izzah, savait qu'est-ce qui s'était passé dans cette famille ce soir-là. Et Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même ne savait pas. Nabiullah ne savait pas. C'est Allah qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le verset qu'on vient de citer. Et jusqu'au Qiyamah, nous lirons ce verset qui mentionne la générosité de ce couple de sahaba. Ça veut dire que Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah connaît pertinemment ce qu'il y a dans notre cœur au moment où on accomplit la bonne action. C'est-à-dire que si dans ton cœur, tu es en paix avec toi-même, tu sais que l'action, tu le fais pour Allah et que tu fais de ton mieux, tu fais de ton mieux et tu le fais pour Allah, sache que la récompense divine, elle est exceptionnelle. Et Allah ne va pas regarder là la quantité. Parce que la quantité, ce n'est pas ce qui intéresse notre Seigneur. Et 1 euro, 2 euros, 10 euros, Allah seul le sait, ça peut être quelque chose qui va nous sauver. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, vous avez rappelé, parce qu'encore le hadith sur le donner une date de chemin d'Allah, si quelqu'un se souvient, ça ne me revient pas. Ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Protégez-vous du feu de l'enfer, même par un morceau, pas une date, pas un datier, même par un morceau de date. Comment est-ce qu'on se protège de l'enfer par un morceau de date salih? Comment il fait? Vous savez, avoir un laboratoire, d'ouvrir une combinaison en peau de date, c'est pas ça le ma'ana. C'est-à-dire que parfois, une personne peut donner une aumône qui nous paraît infime, mais avec cœur, ikhlas, amour pour Allah. Et c'est peut-être cette action qui est minime à nos yeux, c'est notre protection contre le feu de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous ouvrir ces portes de tawfiq et de kaboul. Qu'Allah nous crée de telles situations dans notre vie où on peut accomplir de telles bonnes actions qui seront salvatrices. Ce sont les bonnes actions qui nous auront sauvés. Je sors du sujet, on va de tous les sens. Mais on monte, on descend. Mais quand on monte, on va au paradis. Et quand on descend, on est avec vous. Donc on est toujours dans un canal qui est correct. Dans le Jannah, et là on va très loin parce que là on va dans les dernières informations que nous avons du paradis. Après ça, on ne sait plus. Après que les gens du Jannah soient entrés dans le Jannah et que la situation s'est stabilisée, le paradis accueille tous les croyants, tous ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur. À l'époque de ceux qui étaient disciples de Isa alayhi salam, de Moussa alayhi salam, de le prophète alayhi salam et des anbiya avant.
Et dans le hadith, le prophète rappelle que le vendredi, les croyants iront rencontrer Allah et iront voir leur Seigneur et converser avec leur Seigneur. Et après, les gens vont se retrouver entre eux, c'est-à-dire les habitants du paradis de différents niveaux. Entre ceux qui sont dans le Firdaus, Allahumma ja'alna minhum, ulu amin ya jama'a, et ceux qui sont au niveau les plus bas. Mais on n'a pas le droit de dire de niveau plus bas, parce que tous ceux qui sont dans le Jannah sont honorés par Allah. Et donc, du coup, c'est des personnes qui ne se voyaient pas. Mais le vendredi, c'est le jour où ils se rencontrent. Et dans un hadith, il est stipulé qu'ils vont, ils vont échanger. Et parmi les conversations, un jannati dira à son prochain, est-ce que tu te souviens à quel moment Allah nous a accordé son pardon? Est-ce que tu te souviens à quel moment Allah nous a accepté? Dire, qu'est-ce qui fait qu'on est là dans le Jannah? J'aurais aimé tellement que ce soit vraiment le cas, hein, qu'on soit déjà dans le Jannah, en discuter, mais qu'Allah nous permette de vivre ces instants un jour, et qu'un jour, je parle à Abdurrahman, je parle à Salih et aux autres frères, je dis, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'Allah nous a accepté? Et que chacun dira, parce que Allah mettra cette connaissance dans le cœur de l'homme. C'était quand le pardon divin nous a touchés. À quel moment Allah nous a tellement aimés, a tellement peut-être apprécié une action, ou peut-être c'était un moment où on avait un péché à portée de main, et qu'on, le kafar, et qu'on s'en est éloigné. Bien, je veux pas que lui soit dans le paradis avec moi en tout cas. Voilà. Donc, je reprends, il est parti. On disait donc, il est juste là en fait. Notre administrateur a un bon tireur de coup franc, magnifique. C'est une pleine lucarne, ça. Hein? Bravo. Qu'est-ce qu'on disait? Ça fait 1m80, mais ça saute hein, quand il y a des cafards. On disait, avant cet attentat terroriste de notre cafard, on disait que les gens vont donc échanger dans le Jannah, dans le paradis. Et oui, Allah mettra cette connaissance dans le cœur de chaque croyant à quel moment le pardon leur a été accordé. Tout comme face au hisab, des gens vont voir des montagnes de récompenses et vont dire « Ya Rab, ces récompenses-là ne m'appartiennent pas. » Comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est à toi, c'est pas à moi? C'est Allah qui met cette connaissance de le cœur. Et puis le hadith stipule que c'est les doigts que la personne faisait de lui demander, demander de telles choses. Allah ne lui accordait pas, mais Allah a transformé en guillemets ses doigts en récompense. C'est-à-dire, c'est une connaissance qu'Allah met dans le cœur de chaque être humain. Et donc, nous demandons à notre Seigneur de nous créer des situations où nous obtenons sa grâce, son contentement, et que de le Jannah, on se rappellera de ces situations et on saura que c'est à ce moment qu'Allah nous a pardonné. Et ça nous ramène vers ce nom d'Allah qui est Ash-Shakur, le très reconnaissant, celui qui rétribue en abondance, qui accepte très peu et qui en rétribue beaucoup et qui pardonne. C'est-à-dire, c'est Ash-Shakur qui t'ouvre les portes d'une bonne action, et si tu l'accomplis correctement, peut-être que c'est de cette façon qu'Allah accepte tout ton passage dans ce monde. Ainsi, ikhwani fillah, ne fermons jamais la porte à une bonne action. Quand Allah t'ouvre une porte de bonne action, ne sois pas celui qui la ferme. Et quand une porte de péché s'ouvre à toi, ne sois pas le premier qui y entre. Au contraire, sois celui qui ferme cette porte de péché. Car, et on terminera avec ça, dans le hadith qui parle des 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyam, يوم لا ظل إلا ظله, ben, il y a 6 catégories qui concernent l'accomplissement de bonnes actions. Entre un roi juste, celui qui donne l'aumône, celui qui pleure en demandant istighfar, et ainsi de suite. Entre ce jeune qui a passé sa jeunesse dans le droit chemin avec ses prières, l'accomplissement des bonnes actions, et ainsi de suite. Mais il y a une catégorie parmi ces 7 qui se distingue. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait quelque chose d'exceptionnel, mais qui au contraire s'est éloigné d'un péché. Rajulun da'athum ra'atun. Un homme qui a reçu les avances d'une dame d'une grande beauté et qui avait une place, une notoriété dans la société, et que cet homme a refusé le péché, le haram, le zina, et qui a dit inni akhafullah. Non, je crains mon Seigneur. C'est-à-dire que des fois, Allah peut nous accepter par une bonne action exceptionnelle. Mais des fois, Allah peut nous accepter, peut accepter notre vie, parce qu'à un moment, on a été éprouvé par un péché et on a su dominer notre nafs, nos passions, et nous soumettre à la volonté d'Allah Rabbul Izzah. Qu'Allah nous accorde cette qualité. On va tawfiq illa billah. Qu'Allah nous tawfiq d'essayer d'être assidu dans ces programmes pour essayer de développer au mieux et de connaître et de comprendre ce nom d'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.